Bonjour, bienvenue à La Quotidienne. On est aujourd'hui, entre autres, avec Emmanuelle Audibert, notre journaliste française, qui est en collaboration avec nous pendant plusieurs mois ici, qui rencontrait Gabriel Attal, son Premier ministre, la semaine dernière. Mais nous avons avec nous aussi Éric Duhaime, que vous connaissez bien. Il est déjà venu sur nos ondes de La Quotidienne agricole, animateur bien connu au Québec, mais maintenant aussi homme politique bien connu à la tête du Parti conservateur du Québec. Alors Éric, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, et puis moi j'aimerais ça, on t'a vu, on t'a entendu à la radio, on t'a vu sur certaines plateformes de l'UPA dans des manifestations, dire qu'il y avait trop de paperasse, il y avait trop de réglementation. Je sais que c'est ton mantra de couper un peu dans la sphère publique et de donner de l'air en fait aux entrepreneurs. Est-ce que c'est le cas en agriculture? Tu veux leur donner de l'air?
Absolument. Je pense qu'on vit présentement une crise hein, d'une certaine manière. C'est sûr que c'est pas tout le monde, c'est pas tous les agriculteurs au Québec qui sont affectés de la même façon. Chacun, dépendamment de la taille de son entreprise, dépendamment du secteur dans lequel il œuvre, mais dépendamment même de la région où il se trouve, la crise les affecte de différentes façons. Mais on peut pas nier qu'il y a une crise à l'heure actuelle pour plusieurs producteurs agricoles. Et la raison, je pense, une des raisons principales pourquoi ces gens-là en arrachent présentement, c'est parce qu'ils sont en situation désavantageuse par rapport à leurs concurrents. Le Québec est l'État qui veut le plus intervenir. On a un ministre de l'Agriculture qui se vante que le Québec doit devenir la législation, l'endroit le plus vert au monde en termes d'agriculture. Bien ça, il y a un coût à ça. Et malheureusement, c'est les producteurs présentement qui sont en train de supporter ce coût-là et c'est en train de les étouffer. Et moi, ma crainte, comme homme politique, comme citoyen, c'est qu'on fasse un peu ce qu'on a fait avec nos ressources naturelles, c'est-à-dire qu'on délocalise la pollution, hein, qu'on envoie ça à l'étranger, que nous, on passe des belles réglementations vertes, comme on a fait avec le gaz naturel en disant, nous, on va importer à 100% notre gaz naturel, comme ça, on n'émettra aucun gaz à effet de serre. Et pendant ce temps-là, bien, les travailleurs de cette industrie-là, ils se retrouvent qu'ils sont obligés d'aller travailler en Alberta, puis ils ferment leurs entreprises au Québec. Je ne veux pas que ça se produise en agriculture, qu'on délocalise l'agriculture, qu'on permette à des producteurs de l'Ontario, des États-Unis ou d'ailleurs d'exporter leurs produits vers le Québec, puis que nos entreprises ici crèvent tout simplement.
C'est pour ça que les entrepreneurs à qui tu parles en agriculture t'entendent quand tu leur dis moins de paperasse, moins de réglementation environnementale ou du moins de la réciprocité avec les autres pays. Mais effectivement, dans la communication qui est faite actuellement, qui est faite par l'UPA, par le monopole le syndical, il y a une communication assez globale en fait. Donc on voyait récemment, tout le monde en parle, une maraîchère qui venait nous parler de la difficulté. Alors, il y a des secteurs en difficulté, puis il y a des secteurs, nous on est proche des grandes cultures, il y a quand même les grandes cultures, ça va moins bien cette année, c'est sûr, mais ils ont vécu 3 ans avant de mettre la tonne de maïs. Il y a quand même aussi des secteurs de gestion de l'œuf, volaille, lait qui vont bien. Puis c'est très bien d'ailleurs que ça aille très bien. On est content que les entrepreneurs en agriculture aillent bien.
On veut juste qu'ils aillent tous bien.
On voudrait qu'ils aillent tous bien. Mais est-ce que dans la communication des fois qui est faite, on devrait peut-être plus expliquer aux gens quels sont les secteurs qui vont mal, les secteurs qui vont bien? Est-ce qu'on n'est pas trop global en fait?
C'est sûr que moi, je suis un partisan de la décentralisation, puis je pense que c'est un des problèmes aussi au Québec. On essaie toujours d'avoir une espèce de moule, puis les Anglos disent un « one size fits all ». Là, on veut avoir un modèle unique pour tout le monde, alors que la réalité est beaucoup plus complexe, beaucoup plus diversifiée. Cela étant dit, c'est à peu près universel. Où vous alliez au Québec, ils vont vous dire que ils passent trop de temps à remplir de la paperasse par rapport à leurs concurrents. Ils ont des frais, des éco-frais notamment, des taxes qu'ils ne payent pas ailleurs. C'est pas normal. Puis je vais prendre une ferme familiale. Là, pas besoin de parler de grande culture. Là. Quand je rencontre, par exemple, un agriculteur dans le centre du Québec qui m'explique que cette année, ça lui a coûté 700 à 800 $ d'éco-frais pour ses rouleaux de plastique, pour emballer ses bottes de foin, c'est inacceptable. Parce que tous ses concurrents, ils ne payent pas ce frais-là. Vous allez me dire, c'est juste 700 à 800 $. Mais c'est parce que ça s'additionne. Puis des décisions comme celle-là, il y en a plein. Quand je rencontre un autre agriculteur en Beauce qui me dit qu'il passe une journée entière à remplir des papiers pour le gouvernement, puis essayer de faire des téléphones, puis essayer d'avoir de l'aide des autorités publiques, alors qu'il n'est pas dans le champ pour faire ça, pourquoi il devrait, c'est ça à quoi il est bon, c'est-à-dire pour nourrir les Québécois, c'est pas normal. Et il y a un paquet d'entraves comme celle-là, à un moment donné, qu'il faut qu'au Québec, on se parle, qu'on soit honnête. Là. On a dérapé et on a mis en place un modèle qui, sur papier, pouvait paraître théoriquement optimal, mais malheureusement, dans la réalité de tous les jours, il est en train de nous mettre à désavantage par rapport à nos concurrents.
Tu parles justement des PME qui se plaignent des écofrais. Effectivement, nous aussi, on a des contacts sur le terrain de plusieurs PME agricoles qui nous disent que ça n'a aucun sens, le fonctionnement des écofrais. Malgré tout, elles sont là. Et le gouvernement de la CAQ est quand même... Moi, j'essaie de me souvenir de le positionnement de la CAQ quand ils sont arrivés. Les agriculteurs les aimaient, les régions les aimaient, parce que c'est quand même le premier parti qui a dit, qui parlait aux régions, c'est le premier parti qui a dit « on va faire le ménage ». Quel est le dérapage?
Je sais pas, j'ai l'impression que la CAQ, c'est la grande trahison. On a eu un parti qui est arrivé en nous promettant mer et monde. Hein. C'était supposé être un gouvernement plus efficace, plus petit, plus près du citoyen. On a eu tout le contraire. Et puis, c'est sûr que le symbole ultime, là, ça n'a rien à voir avec l'agriculture, mais le symbole ultime qui explique aussi la débandade qu'on n'a jamais vue au Québec d'un gouvernement, ça a été le troisième lien dans la région de Québec. Hein. Juste de voir comment ce parti-là avait promis, c'était la question de l'urne, comme disait Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, bien, ils sont passés d'une promesse fondamentale, solennelle, à une trahison historique. Et ils ont fait ça à plusieurs autres égards. François Legault, c'était un homme d'affaires qui disait qu'il allait rendre tout efficace. On pensait qu'il allait réduire la taille de l'État. Il avait promis un budget équilibré. Ils viennent de nous présenter le pire budget en termes de déficit de l'histoire du Québec. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Donc, c'est pas pour rien qu'ils ont perdu 50% de leurs appuis en l'espace de 12 mois.
Mais le troisième lien, c'est un petit peu la marionnette de tout le monde. Parce qu'en fait, même là, cette semaine, on ne savait plus trop. On ne sait pas trop si le Parti québécois en veut du troisième lien. On n'en veut plus du troisième lien. Ça devient un petit peu le sujet, un peu comme ça a été à l'époque. On repeint le pont de Québec. On repart pour le pont de Québec. Ça reste que c'est des sujets, je pense, pour plaire à la capitale nationale, ni plus ni moins.
Mais c'est devenu symbolique parce que je pense que même au-delà de la capitale nationale, oubliez même le troisième lien, oubliez la question de transport. Les gens, les citoyens, les Québécois n'aiment pas voir un gouvernement qui délibérément ment à la population pour chercher des votes en période électorale et ensuite roule les gens dans la farine puis les trahit, comme ça a été le cas. Je pense que tout le monde s'est senti utilisé là-dedans, même les gens qui sont loin de Québec pour qui n'en ont rien à cirer du troisième lien.
Mais est-ce que c'est pas comme ça aussi chaque année? C'est comme nous, par exemple, on voit dès que c'est en période d'élection, par exemple, on commence à nettoyer les rues, tout est beau, tout est magnifique, et après, deux mois après, ça se dégrade, il n'y a plus rien qui bouge.
Ben, c'est un peu malheureusement, c'est un peu ça, puis le monde agricole a vécu un peu la même chose. Ils sont là, puis ils ont l'impression que c'était un gouvernement, effectivement, qui était des régions. On avait l'impression que les libéraux et le Parti québécois, c'était plus des partis montréalais, que la CAQ, ça allait être le parti un peu plus des régions. Ça aussi, ça a été une très, très, très grande déception.
Juste pour revenir sur les ponts, parce que finalement, on me fait signe, le technicien me fait signe. Il me dit, en fait, tu vois, regarde à la télé en ce moment, on parle justement du 2,8 milliards pour le pont de l'île d'Orléans. Ça coûte cher, un pont, quand même.
Ben, non seulement ça coûte cher, mais c'est indécent dans ce cas-ci. Pourquoi? Parce qu'on va payer 2,8 milliards pour un pont. Juste pour vous donner un exemple du dernier pont qu'on a construit au Québec en 2019, ça fait pas 100 ans, là, c'était le pont Samuel de Champlain à Montréal. Deux fois plus long, cinq fois plus large. On est pas, au lieu de deux voies, c'est 10 voies. Le pont a coûté 4,2 milliards. C'est le pont le plus achalandé au Canada, avec 57 millions de passages annuellement. Là, on est en train de construire un pont à 2,8 milliards pour 7000 personnes à l'île d'Orléans.
Et parce qu'on pourrait en faire un autre petit bout de l'autre côté de l'île, puis se rendre à l'île.
Je pense que la dépense pourrait se justifier si et seulement si on l'intègre dans un plan de troisième lien entre les deux rives. Mais juste pour l'île d'Orléans, 2,8 milliards, c'est insensé qu'on demande ça aux contribuables québécois.
Pour revenir à nos agriculteurs, là, en fait, toi, tu es connu pour essayer de raboter dans les programmes publics. En fait, tu es quand même un libertaire, on va dire, en tout cas un libéral, certainement.
Classique.
Classique. Et j'aimerais ça comprendre comment on gère ça, parce qu'il faut aider, d'un côté, il faut aider les producteurs, on le dit, dans certains, mais d'un autre côté, il faut pas non plus déverser de l'argent pour déverser de l'argent. Comment on fait ça?
Moi, je suis pas un amateur du gouvernement qui finance et qui subventionne les entreprises. Les agriculteurs, c'est des entrepreneurs. Il ne faut jamais oublier ça, là. Oui, c'est des travailleurs, mais c'est des entrepreneurs à la base. Et la première étape, ce n'est pas que le gouvernement les aide, c'est que le gouvernement arrête de leur nuire. Parce que moi, présentement, ce que je vois, là, c'est un gouvernement qui leur met des bâtons dans les roues. Puis là, j'ai parlé tantôt des éco-frais, on pourrait parler des pesticides, on pourrait parler des engrais, on pourrait parler des eaux de riveraine, on pourrait parler de toute la paperasse qui va avec toutes sortes de règlements. Et ça s'ajoute d'année en année. C'est un rouleau compresseur qui n'arrête plus. Historiquement, là, les agriculteurs au Québec étaient vus comme les travailleurs qui nous nourrissent trois fois par jour puis à qui on était redevables. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'élite politique, surtout montréalaise, il faut le dire, qui les voit comme des pollueurs. Et il y a été une certaine époque, c'est les pollueurs, c'était les gens qui avaient des voitures à essence. Aujourd'hui, c'est les agriculteurs, les sales pollueurs. Puis ça, il faut arrêter de penser. Il faut arrêter de se laisser intoxiquer par cette pensée-là. Je pense que la gauche qui voit les agriculteurs comme des pollueurs est complètement dans le champ. Parce que ce qu'ils proposent, l'alternative, là, c'est que nos agriculteurs pourront plus avoir d'entreprise au Québec. Puis on va être obligé d'importer tous nos produits. Puis l'impact sur l'environnement va être encore bien pire que l'impact actuel.
Puis ceux qui aident les agriculteurs normalement au Québec, c'est aussi leur syndicat, en fait, parce que leur syndicat est là pour les appuyer normalement, pour les aider à développer leur entreprise. Ça reste que, bon, le syndicat, on le sait, c'est un monopole, puis ça, c'est une loi depuis 72. On sait que tu n'es pas trop en faveur des monopoles. Je ne suis pas sûr que tu veux t'exprimer là-dessus.
Mais vous pouvez lire mon livre, j'ai écrit abondamment là-dessus.
Tu as écrit sur le monopole de la SAQ, entre autres.
J'ai écrit Libérez-nous des syndicats aussi. Oui, où il y a question, entre autres, d'agriculture, mais de l'ensemble de la caste syndicale.
Mais justement, dans ce sens-là, parce que les entrepreneurs, pour se développer, il faut qu'ils soient accompagnés par leur syndicat. Est-ce que des fois, leur syndicat, l'UPA, n'est pas justement l'outil qui va appliquer justement des lois qui vont un peu contre les entrepreneurs? Parce que si je prends Cultivons l'avenir 3 ou 4, maintenant, on est rendu, qui sont des programmes fédéraux, qui descendent au provincial, mais finalement, qui sont gérés par l'UPA. Tout comme la gestion de l'œuf est gérée... une fois rendu au Québec, c'est géré par l'UPA, les plans conjoints, c'est géré par l'UPA. Donc finalement, les outils, les bons outils, sont gérés par le syndicat. Donc quand le syndicat dit « ça va mal », quelque part, est-ce qu'il ne se tire pas un peu dans le pied?
Moi, je suis un conservateur. Être conservateur, philosophiquement, à la base, ça veut dire vouloir ramener le pouvoir puis l'argent, ultimement, au niveau du citoyen, le plus possible, et de décentraliser au maximum. Et tous ces programmes-là, ils fonctionnent toujours mieux quand ils sont beaucoup plus près du producteur. Et ça, peu importe le syndicat ou non, que ce soit fédéral ou provincial, l'idée, là, c'est de pouvoir décentraliser au maximum pour rapprocher l'argent de là où la décision se prend au niveau de chaque ferme au Québec. Et ça, il faut que ça soit une obsession pour le ministre de l'Agriculture de toujours vouloir ramener tout le
Donc,
plus près
décentraliser,
du producteur.
C'est quasiment rouvrir peut-être même des bureaux régionaux du MAPAC, parce les bureaux régionaux du MAPAC ont existé et
oui,
n'existent plus.
Mais c'est un gros problème. Parce que la réalité, par exemple, cette année, de ce qui se passe en Abitibi n'a rien à voir avec le centre du Québec. Là, il y a eu une sécheresse. Eux autres sont complètement dans une autre galaxie là, au niveau de la réalité agricole. On ne peut pas appliquer tout partout pareil. Là. Le Québec, c'est un grand, grand territoire. Hein, on l'oublie souvent. Les Français, vous le savez, parce que vous voyez l'étendue de notre territoire. Mais ouais. Au niveau agricole, c'est important, les diversités régionales, le climat n'est pas le même, les cataclysmes ne sont pas les mêmes, les périodes d'ensoleillement, il n'y a rien qui est pareil et on a besoin d'avoir une réalité. Puis même les productions, les types de production varient beaucoup d'une région à l'autre. Donc il faut. Puis la cohabitation aussi avec le reste de la société n'est pas la même dans différentes régions. Donc il faut effectivement qu'au niveau du gouvernement, on ait une approche plus régionale.
Sur la relève, entre autres en agriculture, s'il y a une chose que le ministre Lamontagne a bien fait, c'est la consultation sur les terres agricoles qui avance encore, mais qu'on commence à avoir de l'information. Il y a plusieurs dossiers qui sont sortis là-dessus. Et on se rend compte finalement qu'au moins, il nous a appris une chose. On entendait toujours dire les méchants fonds d'investissement qui achètent les terres, les méchants Pangea de ce monde. Finalement, ça nous a démontré que c'est à 82% les producteurs eux-mêmes qui achètent les terres. Donc en fait, est-ce que la problématique de la relève, elle revient aux agriculteurs et à leurs organisations?
C'est sûr que, ultimement, c'est sûr que c'est l'agriculteur qui décide, hein, que c'est lui qui a un pouvoir décisionnel par rapport à la relève. C'est sûr que présentement, on a des nouveaux défis. La hausse des taux d'intérêt change un peu la réalité pour la relève agricole. Je vais faire un parallèle qui va peut-être vous sembler boiteux, mais pour moi, il y a beaucoup de similitudes. C'est toute la crise du logement qu'on vit à l'heure actuelle. C'est beaucoup de nouvelles générations qui ont difficulté à avoir accès à la propriété. C'est un peu comme les jeunes agriculteurs qui ont beaucoup de difficultés à avoir accès puis à prendre la relève pour essentiellement les mêmes raisons. C'est que financièrement, le coût est rendu tellement astronomique. Les intérêts sont tellement importants. L'inflation frappe tellement rapidement. C'est comme la tempête parfaite qu'on vit actuellement qui peut expliquer qu'on a de graves problèmes au niveau de la relève agricole. Mais en même temps, on n'a pas le choix. Il faut avoir une relève agricole. Puis tu sais, être agriculteur, là, c'est pas un job de 9 à 5 du lundi au vendredi, puis il n'y a pas de job à temps partiel, puis les vacances sont pas de 3 mois, puis tu peux pas partir l'hiver en Floride. Là. Je veux dire, il y a une réalité qui fait que pour une nouvelle génération, c'est moins attrayant, parce que la réalité a quand même changé. Là. Moi, je travaille moins que mes parents, où je mets plus l'emphase sur mes loisirs, puis j'ai l'impression que la nouvelle génération en met encore plus que moi. Donc, il faut aussi que toute l'industrie s'ajuste à cette nouvelle réalité-là. Puis il faut que les nouvelles technologies aussi entrent en considération. Ça aussi, c'est une nouvelle réalité qui est de plus en plus présente. Quand on visite maintenant les grandes productions, on se rend compte que l'ordinateur est aussi important, sinon plus que la terre.
C'est clair. Notamment dans l'application. Tu es venu avec nous à la ferme d'Arros, d'ailleurs. On avait emmené, on a fait des journées, une journée avec toi, une journée avec Dominique Anglade, une autre avec Manon Massé. On avait montré à la ferme d'Arros, chez Dany Messier, comment justement c'était très précis l'implantation des pesticides dans les champs et comment c'était très bien contrôlé. Peut-être une dernière question, en tout cas pour ma part. Emmanuel pourra parler après. juste en tant que chef leader du parti conservateur du Québec, là. On se sent comment là, parce que là, t'as pas de député à l'Assemblée, mais tu regardes les sondages, j'imagine, tu vois quand même le PQ qui monte.
D'abord, il y a deux, trois choses qu'on peut dire par rapport au Parti conservateur. Puis, à la base, là, j'aime ça parler au monde agricole, parce qu'un agriculteur, s'il y a quelqu'un de conservateur dans notre société, par définition, c'est un agriculteur. C'est quelqu'un qui conserve la terre, qui conserve la tradition, qui conserve le territoire, le terroir québécois. Être conservateur, c'est important. Puis au Québec, on est en train de redécouvrir nos racines conservatrices, nos racines bleues qui ont toujours existé, mais qui ont un peu été mis de côté pendant quelques décennies. Et là, ça revient. Je suis très content d'avoir participé à la renaissance du Parti conservateur du Québec. Évidemment, comme tu l'as dit, on n'est pas un parti représenté présentement à l'Assemblée nationale, même si on a eu la plus grosse croissance de notre vivant pour un parti politique. Ça ne s'est pas malheureusement traduit en nombre de sièges, même si on a eu le même nombre de votes que Québec solidaire, le Parti québécois et le Parti libéral du Québec. Cela étant, je sens que les gens sont encore là. La baisse de la CAQ fait en sorte que s'il y avait aujourd'hui des élections au Québec, on ferait notre entrée à l'Assemblée nationale dans la région de Québec, on gagnerait quelques sièges en Beauce, même dans la région de Chaudière-Appalaches aussi. Donc ça, c'est très encourageant. L'autre élément, c'est que la prochaine élection, elle ne sera pas québécoise, elle va être fédérale. On sait qu'il y a un gouvernement minoritaire à Ottawa. D'ici un an et demi, il va y avoir certainement une élection fédérale. Si on suit au sondage, on voit que le Parti conservateur a le vent dans les voiles. J'arrive d'une conférence la semaine dernière à Ottawa. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'enthousiasme au Canada pour le Parti conservateur et Pierre Poilievre. Et je pense que ça va revamper l'image conservatrice au Québec. Je pense qu'on va reconnecter avec nos valeurs conservatrices profondes et j'ai confiance que le monde agricole aussi va être derrière la vague conservatrice qui s'amène.
Tu regardes sûrement aussi les élections au niveau international, oui. Les élections européennes qui arrivent au mois de juin. On verra aussi la tendance que ça prend pour l'instant. On va les appeler les conservateurs, on est gentil parce que c'est un peu plus que des conservateurs. Les conservateurs sont en force.
Mais la droite, ouais. Mettons.
Le RN. Le RN.
Mais c'est sûr qu'il y a une montée, pas juste en Europe, là, dans l'Occident, partout, il y a une montée de la droite, puis c'est pas étranger à ce qu'on a vécu. Hein. Il y a eu comme un changement très radical où l'État a tenté de nous enlever beaucoup de libertés, beaucoup de droits civiques au cours des dernières années. Et je pense que là, on assiste au ressac, aux gens qui disent qu'ils veulent se réapproprier.
Selon les pays, par contre, il y a les droites sociales et les droites économiques. La droite économique est une chose, la droite sociale est autre chose.
Mais il y a aussi les vagues d'immigration qui ont beaucoup changé. Hein. Vous le savez, au Canada, on n'a jamais eu, même au Québec, on n'a jamais eu autant d'immigrants qui entrent en une si courte période de temps. Ça crée des chocs, ça crée une réaction. Et ça aussi, ça explique qu'il est en train de se passer politiquement un changement important.
Ouais, ben en France, c'est pareil. On a vu qu'il y avait un changement assez clivant, puisque aux élections, quand il y a eu un Macron-Le Pen, et au final, tout le monde a un peu marronné de ce choix. Et finalement, les cinq ans après, on a refait le débat Macron-Le Pen. Donc,
Et on est toujours dans cette dualité, je pense, en France actuellement. Et de toute façon, en tout cas, tu auras participé la semaine dernière à une rencontre avec le Premier ministre français. Je ne sais pas si un jour tu pourras dire j'ai fait un podcast avec un Premier ministre du Parti conservateur du Québec. C'est juste l'avenir qui le dira. Merci Eric d'être passé.
Toujours un plaisir. Merci à vous.